Merci pour cette présentation. Quelque chose qui m'a. C'est pas net. Mais c'est peut-être normal, c'est parce que y a du relief, y a du... voilà, c'est ça. C'est pas fait pour être lu. Bon, donc la présentation a été bien faite et je vais en fait vous parler de. Déjà que je m'approprie ce truc-là. Donc, type de réacteur nucléaire un peu particulier, qui sont les réacteurs à combustible liquide. En fait, à la base, c'est ça qui est intéressant et on va voir pourquoi. Et puis ensuite, je vais vous parler de ce réacteur-là qui est en cours de conception, encore de manière très théorique, qui s'appelle le MSFR, Molten Salt Fast Reactor. Et vous voyez qu'il y a un petit sous-titre ici, vers un nucléaire socialement acceptable. C'est en fait ce qui nous guide. Depuis le début, ça fait 20 ans maintenant qu'on travaille sur ce sujet-là. Et en tant que physicien, nous, c'est cet aspect-là qui nous a guidés. Et je vais essayer, dans la première planche, de vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quels sont les critères d'évaluation d'un réacteur nucléaire de fission du futur? Je parle bien de fission, je ne parle pas de la fusion, hein. En fait, ce qu'on attend de lui, c'est d'abord de jouer un rôle efficace dans la lutte contre le changement climatique. En fait, s'il n'y avait pas ce problème de changement climatique, s'il n'y avait pas le problème dû aux énergies fossiles, on pourrait faire notre énergie avec les énergies fossiles, ça ne poserait pas tant de problèmes que ça, et le nucléaire ne serait pas forcément si utile que ça. On a encore de l'énergie fossile pour des siècles, donc il n'y a pas de difficulté majeure là-dessus. Mais on a le problème du changement climatique, il faut trouver une solution. Parmi les solutions, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quatre. Dans ces quatre, bon, il y a efficacité énergétique, énergie renouvelable, le nucléaire et capture séquestration du CO2. Vous n'avez pas d'autres options pour lutter efficacement. Et donc, il faut que le nucléaire puisse avoir un rôle efficace dans ce cadre-là. Et pour qu'il ait un rôle efficace, il va falloir déployer des milliers de réacteurs dans le monde. Donc, quand je dis des milliers, c'est plusieurs milliers, 3, 4, 5 000. Et là, on voit bien qu'on se heurte immédiatement à un problème d'acceptabilité sociale. Les gens, déjà avec 300-400 réacteurs, ça se passe mal. On a déjà quand même quelques accidents. Si on en a 10 fois plus, on aura 10 fois plus d'accidents. C'est-à-dire que tous les ans, on aura un Fukushima. Et ça, ce n'est pas vraiment acceptable. Donc, on a besoin qu'il soit socialement acceptable et aussi qu'il soit pérenne. C'est-à-dire que ce soit un nucléaire qui puisse fonctionner pendant plusieurs siècles et non pas seulement quelques dizaines d'années, puis on n'a plus d'uranium-235 et on s'arrête. Ce n'est pas quelque chose de jouable. Donc, maintenant, si on essaie de regarder plus dans le détail, qu'est-ce qu'on attend? On attend d'abord, donc pour être pérenne, on attend qu'il y ait une bonne économie des ressources. Et les ressources, en fait, c'est la ressource, c'est l'uranium-235. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit proche de la régénération. La régénération, ça veut dire, plutôt que d'utiliser comme fissile l'uranium-235, 0,7% de l'uranium dans la nature, on va utiliser un fissile qu'on va fabriquer dans le réacteur nucléaire. On va le fabriquer à partir de matériaux qu'on appelle fertiles. Et il y a deux types de matériaux fertiles. Il y a l'uranium-238 ou le thorium-232. Il n'y en a pas d'autres. C'est les deux seuls qui permettent de faire de la régénération. Et donc, il faut que ce réacteur soit régénérateur, c'est-à-dire qu'on utilise le fissile qu'il fabrique lui-même et non pas un fissile qu'on va chercher dans la nature en quantité insuffisante. Alors, ça impose une chose qui est très importante, c'est qu'il va falloir avoir un retraitement du combustible en permanence. On a un combustible nucléaire, dedans il y a des fissions, ces fissions produisent des fragments de fission qui deviennent des produits de fission, ces produits de fission empoisonnent le réacteur petit à petit, parce qu'ils capturent des neutrons, et donc il faut les sortir. Et pour les sortir, il n'y a pas le choix, c'est de la chimie. Il faut arriver à extraire ces produits de fission, et c'est indispensable. Chaque fois qu'on vous parle d'un réacteur régénérateur, quel qu'il soit, posez-vous toujours la question, oui, mais quel retraitement derrière et comment on le fait? Si on ne peut pas le faire, on ne peut pas être régénérateur. Deuxième point, c'est sûreté optimale. Parler d'accidents tous les ans si on met trop de réacteurs, ce n'est pas acceptable. Alors, le critère qui est maintenant retenu, et que nous on avait pris dès le départ, c'est qu'il ne doit être jamais nécessaire d'évacuer des populations vivant à proximité du réacteur. C'est-à-dire qu'on assure que les gens peuvent vivre à côté, jamais ils ne seront évacués. Donc le réacteur doit être conçu de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, par exemple, ça veut dire qu'il faut que tous les coefficients de contre-réaction soient négatifs. Les coefficients de contre-réaction, vous savez, c'est vous mettez une bille dans un bol, vous la poussez, elle revient. Le coefficient de contre-réaction est négatif. Poussez dans un sens, ça part dans l'autre sens. Et là, on voit que la bille, elle va rester dans le bol, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous mettez la bille sur un dôme, bien en équilibre, vous poussez, ça va accélérer, elle va partir. Le coefficient de contre-réaction est positif, et on voit bien que ça va mal se passer, le système est instable. Donc, il faut que le système soit parfaitement stable, et donc il faut que quoi qu'on fasse, il revienne au fond du bol, systématiquement. Donc, que tous les coefficients soient négatifs. Il faudrait qu'il n'y ait pas de matériaux fortement réactifs dans ou à proximité du cœur. Fukushima, c'est des explosions hydrogène. Pendant l'accident, on a produit de l'hydrogène, et c'est cet hydrogène qui a posé problème plus qu'autre chose. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ce genre de production d'hydrogène. Il ne faut pas qu'il y ait possibilité d'avoir, en gros, ce que j'ai marqué après, en général, qu'il ne puisse pas y avoir de suraccident. C'est-à-dire, si un accident, ça peut arriver, on fait mal les choses, il faut que ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça déclenche quelque chose qui va suivre derrière. Ensuite, il y a un problème des déchets. Les gens parlent beaucoup de problèmes de déchets. Alors ça, c'est un tout petit peu compliqué, parce que quand on en parle avec les industriels, pour eux, ce n'est pas un problème. Parce que les déchets, on va les enfouir et puis ils ne vont jamais poser de problème. Pour la société, ce n'est pas vrai. Ils ne le voient pas de cette façon-là. Et donc, il faut gérer ça. Et en fait, ce qui pose un vrai problème, c'est le temps. C'est-à-dire, quand on dit aux gens, les déchets, bon, ce n'est pas un problème, d'ici quelques millions d'années, ils auront disparu. Quelques millions d'années, c'est long. Voilà. Ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir aux déchets les actinides, c'est-à-dire ces noyaux un peu lourds qui sont fabriqués par la mauvaise combustion. Au lieu de fissionner, il ne fissionne pas, donc il fait un noyau un peu plus lourd. Et petit à petit, on a des noyaux de plus en plus lourds. Ces noyaux-là, si on les laisse dans le cœur du réacteur et que vous leur envoyez des neutrons en permanence, ils finiront toujours par fissionner à un moment ou à un autre. Donc il faut aller jusque-là. Il faut tous les fissionner et ne jamais les mettre aux déchets. Ce qu'on appelle le multi-recyclage. On va les laisser dedans en permanence, ou si on les sort, il faut les re-rentrer en permanence. Ça serait bien aussi s'ils pouvaient s'occuper des réacteurs actuels, des déchets qu'on produit dans les réacteurs actuels, toujours ces actinides. Alors pourquoi les actinides? Parce que les autres, c'est les produits de fission, dont j'ai déjà parlé. Noyau SK102, ça fait des produits de fission. Ces produits de fission, ils ont une durée de vie de quelques centaines d'années effectives, c'est-à-dire qu'au bout de quelques centaines d'années, il n'y a plus besoin de les gérer. On est passé en dessous de la radioactivité du minerai qu'on a utilisé pour faire fonctionner le réacteur. On passe d'ailleurs très largement en dessous. Donc là, c'est une gestion de quelques centaines d'années. C'est gérable, c'est jouable. Les gens comprennent que on va les enterrer, puis dans quelques centaines d'années, il n'y a plus de problème. C'est encore une échelle humaine. Ce n'est pas des centaines de milliers d'années. Donc, ça serait bien de pouvoir gérer les actinides qui viennent des réacteurs actuels, sauf que je vous rappelle qu'actuellement, on les mélange avec les produits de fission dans des verres. Et là, ils ne peuvent pas les récupérer. Et donc, on ne pourra pas les remettre dans un réacteur qui serait capable de les gérer, ce fameux réacteur du futur. Et puis, il faut faire attention aussi aux éléments de structure, parce que les neutrons, ils ne sont pas que dans le cœur du réacteur, ils vont aussi un peu partout, et puis ils sont capturés et ils fabriquent des éléments radioactifs. Il faut que ces éléments-là soient gérables de la même manière. Résistance à la prolifération, je passe très très vite, parce que, en fait, c'est un faux problème. C'est les Américains qui se posent des tas de problèmes. Mais si quelqu'un veut construire une bombe, il enrichit de l'uranium naturel. C'est pas si compliqué que ça à faire. C'est de plus en plus facile. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit beaucoup plus compliqué que l'enrichissement de l'uranium naturel pour pouvoir faire une bombe. Bon, ceci dit, on parle de prolifération, mais on oublie de parler du détournement de matière radioactive qu'on pourrait balancer dans les eaux de Paris, par exemple. Il suffit d'en mettre très très peu pour que ce soit une catastrophe nationale. Ça, c'est un sujet qui est un peu compliqué, en fait. Et puis, le dernier sujet, c'est la compétitivité économique, qui a deux points, en fait. Le premier point, c'est la personne qui achète. Vous achetez de l'électricité, vous la payez la moins chère possible. Donc, il faut que ce ne soit pas trop cher. Le deuxième point, c'est, je vous ai dit, un accident peut toujours arriver. Le réacteur peut être perdu dans ce cas-là. Il ne faut quand même pas que ça arrive tous les 3 ans. Donc il faut qu'on assure qu'il y aura moins de 1% des réacteurs qui auront ce genre de problème. Ça, c'est pour l'opérateur. Il ne va pas acheter des réacteurs qui coûtent quelques milliards d'euros sans être sûr qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est tous les critères, en fait, qu'on s'est fixés pour développer le réacteur dont je vais vous parler. Et le réacteur en question coche toutes les cases. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il coche toutes les cases, c'est parce qu'on l'a configuré, on l'a designé de manière à ce qu'il coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'on est parti à la base, on a tout défini à partir de là. Alors, en fait, la solution vient des combustibles liquides. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi un combustible liquide peut avoir ces avantages-là potentiellement. Donc, ce que je vous présente là, c'est potentiel. Après, on verra comment on le fait réellement. Donc, les avantages d'un combustible liquide, c'est d'abord l'homogénéité du combustible. Dans un réacteur à combustible solide, le solide, il est à un endroit donné. Il a le flux de neutrons qu'il a. S'il est sur la périphérie, il y en a moins. S'il est au centre, il y en a plus. Donc, il n'a pas la même fluence, le même nombre de neutrons. Et donc, il faut les déplacer en permanence. Donc, un assemblage dans un réacteur, il a au moins 3 positions pendant sa vie dans le réacteur, de manière à ce que tous les assemblages aient à peu près la même fluence, ou le même nombre de neutrons pendant toute sa vie. Et ça, c'est très compliqué à faire. Là, ce n'est pas un problème. C'est un liquide qui est brassé en permanence. Donc, chaque atome passe à tous les endroits du réacteur très régulièrement. Dans l'espace de quelques minutes, il a déjà tout exploré. Donc, c'est homogène. Donc, ça simplifie considérablement la gestion du réacteur. La chaleur est produite directement dans le caloporteur. Et ça, je vais vous montrer l'intérêt de ce point-là. Dans un combustible solide, les réacteurs actuels, vous faites une fission. Cette fission a 2 fragments de fission qui reculent. Ces fragments de fission ont une énergie cinétique. Ils s'arrêtent, ils déposent cette énergie dans le solide. Et cette énergie, il va falloir maintenant qu'elle se déplace. Elle va diffuser. C'est des oxydes, ça diffuse très mal dans les oxydes. Donc, il y a un petit peu de mal à aller jusqu'à la gaine. Au niveau de la gaine, il y a une résistance thermique, parce que le contact n'est pas forcément parfait. Puis, enfin, il arrive dans le caloporteur qui va pouvoir l'emmener vers le système de conversion. Si vous avez une variation de la puissance, variation du flux neutronique, vous avez plus de puissance produite dans le combustible, mais cette puissance, elle n'arrive pas dans le caloporteur tout de suite. Il faut que ça arrive jusqu'au caloporteur. Donc, la température va se mettre à monter dans le combustible, puis ensuite on va pouvoir revenir, et ça peut prendre relativement longtemps, et vous voyez que ça peut avoir des conséquences sur l'intégrité du combustible lui-même. Ça va l'abîmer s'il a des variations de température donc relativement importantes. Là, on dépose l'énergie dans le liquide qui lui est envoyé directement dans un échangeur et il va dans le système de conversion. Ça prend quelques secondes. Donc ça aussi, ça donne un avantage considérable de stabilité du réacteur. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est immédiatement pris en compte dans les systèmes de contre-réaction extérieure. Autre avantage déterminant, c'est la possibilité de pouvoir reconfigurer le cœur du réacteur en quelques minutes. C'est un liquide. Vous êtes dans la situation Fukushima, vous n'avez plus de source froide, vous n'avez plus d'électricité. Et la puissance résiduelle, c'est la radioactivité en fait, du combustible. Ça chauffe, radioactivité, c'est de la chaleur. Donc ça chauffe, il faut refroidir, c'est un combustible solide. Il faut absolument amener des frigories sur place. Là, vous faites l'inverse, vous ouvrez la bonde, c'est une baignoire, ça se vide, et vous le videz quelque part, vous avez conçu la géométrie, les matériaux, etc., tel que le refroidissement soit totalement passif, il n'y a pas besoin d'intervenir. Donc la vidange peut être passive, et le refroidissement derrière peut être passif. Dans une situation Fukushima, il ne se passe absolument rien. Le combustible est ailleurs et il se refroidit tel que ça a été conçu. Ensuite, il y a la possibilité de retraiter le combustible sans arrêter le réacteur. Je vous ai dit que pour être régénérateur, il faut absolument faire du retraitement. Donc là, on le fait sans arrêter le réacteur. Vous ponctionnez quelques litres du combustible. Vous verrez qu'il y en a 18 000 litres. Donc, ponctionnez 10 litres. Vous faites un retraitement, puis vous le remettez au bout de quelques jours dans le cœur du réacteur. Ça n'empêche pas le réacteur de fonctionner, mais donc vous avez une souplesse d'utilisation qui est bien plus grande. C'est pas on arrête le réacteur, on doit ouvrir, on doit enlever les assemblages, on les fait refroidir, etc. C'est très très compliqué, tout ça, ça prend des années. Là, non, c'est déjà un liquide, un combustible. Quand vous le retraitez, la première chose que vous faites, c'est que vous le solubilisez dans de l'acide nitrique, donc pour en faire un liquide. Là, il est déjà liquide. Faire de la chimie, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça, c'est les avantages potentiels. On se dit, voilà, ça, c'est intéressant. On va peut-être pouvoir faire des choses avec ça. Alors, la question, mais quel liquide ? C'est bien de vouloir un liquide, mais quel liquide ? Alors, je vous ai listé en vrac un certain nombre de choses. Il y en a d'autres. Tous les critères ne sont pas listés ici. Mais on voit bien qu'il y a plein de contraintes. Il ne faut pas, évidemment, si par exemple, vous prenez de l'eau, bah, l'eau, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de puissance parce que vous allez dissocier les réactions nucléaires, enfin, l'irradiation, on va dissocier l'eau, l'oxygène de l'hydrogène, vous allez avoir la production d'hydrogène, donc voilà, c'est pas bon. Donc il y a plein de choses dans ce genre-là qu'il faut éviter. Donc quand on passe en revue tous ces critères, et ça a été fait souvent dans les 60 dernières années, à chaque fois on arrive exclusivement vers les fluorures de lithium. Alors, il y a aussi les chlorures de lithium, et les chlorures de lithium ne respectent pas ce point-là. Il y a une production de chlore 37 qui n'est pas gérable au niveau gestion des déchets. Donc, du coup, on obtient des fluorures de lithium, et encore pas n'importe quel lithium, il faut qu'il soit enrichi en lithium 7, très fortement. Mais on sait faire, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à faire. D'où le fait qu'on parle de réacteurs à sel fondu, puisque ce sont des sels, comme le chlorure de sodium. Là, c'est des fluorures de lithium, mais c'est un peu pareil. Et donc, ce sont des sels fondus. Et il se trouve que, je vous ai parlé des deux cycles possibles avec le thorium-232 et l'uranium-238, qui, lorsqu'ils capturent un neutron, après décroissance, vont fabriquer un noyau fissile, l'uranium-233 et le plutonium-239. Ces deux cycles sont très, très comparables. Souvent, on dit le thorium, c'est génial. Non, le thorium, ça ne vous apporte rien du tout. Vous voyez, c'est exactement les mêmes cycles. Et je peux même vous démontrer que, à la limite, l'uranium est peut-être mieux. Sauf que ce cycle-là a besoin d'avoir, et je vous montrerai après, des neutrons rapides pour pouvoir fonctionner. Il ne faut pas ralentir les neutrons. Et la présence du fluor fait que ce n'est pas tout à fait le cas. Et du coup, on pourrait utiliser le cycle uranium, mais ça serait moins efficace que d'utiliser le cycle thorium. D'où le fait qu'on utilise le cycle thorium dans le réacteur que je vais vous montrer. Mais ce n'est pas une obligation. C'est plus efficace, efficace économiquement parlant. Ça ne change rien d'utiliser l'uranium, ça ne change rien sur tous les critères que je vous ai listés, sauf le critère économique. C'est un peu plus compliqué à faire, donc ça va coûter un petit peu plus cher. Alors, les réacteurs à sel fondu, bah, ça existait. Ça existait à l'ORNL, vous savez, le labo qui a construit les premières bombes. Et donc, la première idée, ça a été de faire voler des avions avec un réacteur nucléaire. Vous imaginez un avion qui peut voler pendant des mois, comme un sous-marin. Bon, c'est pas si simple, parce que l'avion, s'il se crache, ça pose problème. Un sous-marin qui tombe au fond de l'océan, ça pose moins problème. Bon, en fait, bon, quand on regarde les critères nécessaires pour pouvoir faire ça, on s'aperçoit qu'il n'y a que les combustibles liquides qui permettent de répondre à la question, justement grâce aux avantages que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc, ils ont construit un réacteur à sel fondu de 2,5 MW thermique, c'était en 1954. Et ce réacteur a fonctionné correctement, mais il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes de corrosion, voilà, il y a des choses qui n'étaient pas forcément bien gérées à l'époque. Et puis, bon, le projet a été abandonné. Et à l'ORNL, ils se sont passés sur un deuxième projet, un réacteur de un peu plus grande puissance, mais qui avait cette fois-ci pour but de faire un réacteur civil de production d'électricité. Donc il est là, ça c'est un échangeur de chaleur, le réacteur lui-même est ici. Et donc ce réacteur a très bien fonctionné, il n'y a pas eu les problèmes rencontrés sur le premier, parce que évidemment ils ont trouvé les solutions entre-temps. Il a fonctionné à l'uranium, au plutonium, à l'uranium-233, mais jamais avec du thorium. Il n'y a jamais eu de réacteur à sel fondu qui a fonctionné en cycle thorium, en cycle régénérateur. Voilà, bon, ça a très très bien fonctionné. Et puis du coup, ils ont conçu un réacteur qui s'appelle le MSBR, Molten Salt Breeder Reactor, 2500 MW thermique, donc un concept qui avait pour but d'être construit, mais qui n'a jamais été construit. Le projet était abandonné en 1976. Il a quand même été repris un peu partout dans le monde, en particulier en France, EDF et CEA ont beaucoup travaillé sur le concept et énormément de documentation dont on s'est servi pour faire la suite. Et puis, donc, le forum international Gen 4, qui avait retenu 6 concepts sur les, je crois que c'était 150 ou 200 qui étaient proposés, ils en ont retenu 6. Et dans les 6, il y avait le MSBR, qui a d'ailleurs été retenu sous l'impulsion, essentiellement beaucoup, du CEA et d'EDF, qui tenaient à ce qu'il y ait ce type de réacteur dans les 6. Alors nous, le CNRS, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? En 1991, il y a la loi sur les déchets la loi Bataille qui nous dit faut que les scientifiques trouvent des solutions aux déchets nucléaires. Donc le CNRS se dit, scientifique, c'est nous aussi. J'ai rencontré Christian Bataille un jour qui m'a dit, je ne pensais pas que le CNRS s'intéresserait au sujet quand il a fait la loi. Mais bon, on s'est dit, pourquoi pas. Et donc on a commencé à s'intéresser au sujet, puis très rapidement on s'est dit, mais les déchets, le mieux c'est d'en faire moins. Et donc de concevoir un réacteur de production d'énergie qui ferait moins de déchets, donc qui soit parfaitement régénérateur, qu'on puisse complètement recycler le combustible. Donc on est parti dans cette direction, et les seuls concepts vraiment qui existaient à l'époque qui permettaient de faire ça, c'était les réacteurs à sel fondu. Et donc on a travaillé avec Charlie Baumann sur un projet de réacteur, ce qui nous a permis de nous faire un peu la main. On vient de la physique théorique, hein, donc ça n'a pas grand-chose à voir. J'avais jamais étudié un réacteur nucléaire, sauf à l'école avant. Donc voilà. Et puis, on s'est dit, on va réévaluer le MSBR, le fameux réacteur que tout le monde a étudié. Ça nous a donné l'occasion de développer des codes qui n'existaient pas à l'époque. Donc on s'est mis à vouloir étudier le comportement d'un réacteur nucléaire avec des codes Monte Carlo, donc les notions de hautes énergies, la façon dont on travaille en physique des particules, des choses comme ça. Et donc on a développé ça, et puis un couplage de ces codes-là avec un code d'évolution des matériaux, ce qu'on appelle les Monte Carlo évoluants, qui fait qu'on peut suivre en permanence l'évolution du combustible sur des temps très longs. On regarde en général sur 200 ans, c'est le combustible, pas le réacteur, mais le combustible peut vivre 200 ans. Et donc avec ces outils-là, en fait, on s'affranchit des hypothèses qui sont faites dans les codes courants, on appelle les codes déterministes, où il faut faire plein d'hypothèses parce que c'est un peu compliqué, c'est analytique plus ou moins, même si c'est des codes de calcul. Et donc, toutes ces hypothèses, on n'est pas très sûr que ça va bien fonctionner. Sur un réacteur qui existe, on recale un peu les paramètres. Là, sur un réacteur qui n'existe pas, on ne peut rien recaler du tout, donc on n'a aucune confiance sur les résultats. Là, la physique est mise complètement dedans. Les seuls inconnus, c'est on a des bases de données, ces bases de données, elles sont ce qu'elles sont. Des fois, des données qu'on connaît mal. Mais c'est les seuls inconnus qu'on a. Ça n'a aucune inconnue sur le comportement physique. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate des choses qui ne sont pas très sympathiques. On constate que le coefficient de contre-réaction globale est nul, voire positif, sauf dans des conditions très particulières, peu réalistes. Donc, ce n'est pas très gérable. Le coefficient de vie, lui, est largement positif. Donc, c'est Tchernobyl. Voilà. Il y a un retraitement qui est peu réaliste, 4 mètres cubes par jour. Alors c'est vrai que ceux qui soutenaient le projet disaient, mais c'est rien, 4 mètres cubes par jour, quand vous remplissez un verre, c'est ce rythme-là. Donc c'est pas. Mais ça veut dire que c'est en continu, quoi. Et s'il y a un petit problème sur l'unité de retraitement, vous arrêtez le réacteur. Ça me fait dire que c'est un réacteur qui ressemblait un peu à une éolienne. Ça marchait quand ça voulait. Donc ça pose un problème. Le réacteur, c'était un grand bloc de graphite percé de trous avec le sel qui circule de bas en haut, là, à l'intérieur. Ce graphite, en fait, il pose vraiment problème. D'abord, il a une durée de vie limitée. Quand vous l'irradiez, il commence par se contracter, puis après, il se dilate. Quand il est revenu à son volume initial, il faut s'arrêter. On sent bien qu'il va y avoir des problèmes de contraintes mécaniques ingérables, donc il faut s'arrêter. Sortir ce graphite, et on en fait quoi? On ne sait pas retraiter le graphite, on ne sait pas refaire un graphite avec. Et puis on ne sait pas le stocker. Et vous savez peut-être que les graphites des réacteurs graphite gaz actuels, qu'on a construits il y a déjà longtemps et qu'on a maintenant sous les bras, ce graphite, on ne sait pas quoi en faire au niveau stockage. Essentiellement parce qu'il y a un peu de chlore 37 à l'intérieur. Ça c'était un problème. Deuxième problème, je vous ai dit, on ne sait pas le retraiter et le stocker. Et puis il y a un risque d'incendie. Quand tu disais Tchernobyl, on a les deux, on a le coefficient de vide positif et l'incendie qui suit. La catastrophe de Tchernobyl, c'est l'incendie, c'est pas l'excursion de réactivité, ça aurait été que local s'il n'y avait eu que ça. Un incendie qui a duré une semaine, ça a balancé plein de choses dans l'atmosphère. Donc il y a tous les ingrédients pour que ce réacteur puisse être considéré comme n'ayant pas les capacités à devenir un réacteur industriel. Et nous, ça nous a bien embêtés parce qu'on s'est dit, on pensait tenir un truc bien, et puis non, c'est pas bien. Et on a cherché des solutions en disant, on va mettre des rustines, on va essayer de trouver pour cacher un peu les problèmes, etc. Mais c'était pas très convaincant. Et c'est là qu'on a compris que, en fait, concevoir quelque chose de nouveau, Ça consiste pas de partir quelque chose d'existant et puis de le modifier un petit peu pour arriver à quelque chose d'acceptable. C'est vraiment de partir de zéro et de construire à partir de l'idée qu'on a. Et donc c'est plutôt ce qu'on a fait, ce que je vais vous montrer, parce qu'en fait les avantages intrinsèques des combustibles liquides restent. Au passage, message important, c'est pas parce qu'un réacteur est à combustible liquide que c'est un bon réacteur. Vous voyez que là, ce n'est pas un bon réacteur. Et donc, on a fait une étude complètement paramétrique. Alors, je vous montre typiquement, on simulait quelque chose de relativement simpliste. Vous avez donc le bloc de graphite avec les canaux de sel qui circulent donc de bas en haut. En réalité, ça ne circule pas, c'est que de la neutronique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé le pas des hexagones. Vous avez un réseau hexagonal. On a fixé le pas des hexagones et on a changé la taille des canaux à l'intérieur. Bon, on a fait plein d'études, mais c'est celle qui a marché. On a bougé la taille des canaux à l'intérieur, mais on a aussi fixé le volume total, parce que si on ne fixe pas des choses, on ne peut arriver à rien. Donc ça veut dire que si les canaux sont tout petits, le réacteur est monstrueux, parce qu'il y a énormément de graphite avec des petits canaux au milieu, pour avoir toujours le même volume de sel. Si les canaux sont très grands, ben, le réacteur est beaucoup plus compact. Et qu'est-ce qu'on observe? Sur les coefficients de contre-réaction, en fonction donc du rayon des canaux, on voit qu'effectivement, il y a toute une zone là où c'est positif, et puis ensuite, ça devient très largement négatif. Il suffit d'aller plus loin. Alors ça, pour la petite histoire, c'est intéressant. Il y a une thèse, EDF, qui date de 2000, où cette courbe existe et elle s'arrête quelque part par là. Alors c'est pas à cause de celle-ci que ça s'arrête par là, c'est celle d'après. Et ils n'ont pas fait la suite. Parce que c'est à cause de la suite, là. Parce que quand vous regardez le taux de régénération, vous voyez qu'il redécroît ici. Il commence par croître, puis il redécroît. Puis quand ils ont vu, ça repasse en dessous d'eux, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc ça, c'est aussi un enseignement. Quand vous faites une étude de quelque chose, même si ça vous paraît stupide ou avoir aucun sens d'aller au-delà, il faut aller au-delà. Donc j'avais un thésard et je lui dis, tu fais les points suivants. Ça prenait une semaine pour faire un point, hein, avec les ordinateurs de l'époque. Maintenant, ça prend quelques jours, enfin ça prend quelques heures. À l'époque, ça prenait une semaine. Et donc il a continué et en fait la régénération remonte très largement quand on fait des canaux plus grands. Ça c'est le flux neutronique. Alors pour les experts, ils comprennent, voient tout de suite que là on a un flux thermique et là on a un flux rapide parce que ici on a besoin de très peu, de neutrons, on a un flux relativement faible. Et ça c'est le cas dans un REP par exemple, le flux est pas très important. Ici le flux est 10 fois plus important. Et c'est le cas dans un réacteur à neutrons rapides, genre Superphénix, où le nombre de neutrons est bien plus important, et c'est un réacteur à neutrons rapides. Si on trace dessus la durée de vie du graphite, on voit qu'elle est grande quand on a des petits canaux, sauf qu'on a beaucoup plus de graphite à retraiter à chaque fois, ce qui fait que globalement, on a un flux de graphite qui est plus important qu'ici, où la durée de vie est relativement courte. Donc c'est moins de 2 ans, hein, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il faut sans arrêt changer le graphite. Et puis ça c'est l'inventaire en uranium-233, puisqu'on était en cycle thorium, donc on démarre à l'uranium-233. Et on voit aussi qu'on a un spectre thermique ici parce qu'on a un inventaire faible, et puis l'inventaire commence à augmenter, le spectre devient rapide. Et donc on a besoin de plus en plus de matières fissiles pour que ça puisse fonctionner. Et quand on regarde ça, on remarque un point qui est celui-ci, où on n'a plus de problème de graphite là, parce qu'on a fait des canaux sans graphite, donc il n'y a plus de graphite du tout à l'intérieur. On a très bon coefficient de contre-réaction, très bonne régénération, un petit problème avec l'inventaire fissile initial qui est important. Ça, c'est un problème parce que si on veut construire beaucoup de réacteurs, il faut avoir cet inventaire fissile, c'est pas simple. Et puis un flux neutronique relativement important avec des neutrons rapides qui fait qu'on va avoir des dégâts aux matériaux plus importants que dans l'autre cas. Enfin, ceci dit, ce point-là nous a quand même interpellés. C'est dit, là, il y a quand même quelque chose de très intéressant et c'est ça qu'on a creusé. Le MSFR, donc, qui est ça en fait, c'est un réacteur régénérateur à spectre rapide. C'est le seul réacteur régénérateur dont tous les coefficients de contre-réaction sont négatifs, et fortement négatifs. Il n'y en a pas d'autres. En 2008, le policy group du Forum Génération 4 décide d'enlever le MSBR, au vu de nos études, d'enlever le MSBR et de le remplacer par ce réacteur, donc le point qui était à droite. Et c'est eux qui l'ont appelé le MSFR, le Molten Salt Fast Reactor. Nous, on l'avait appelé TMSRNM, donc pas très sympa. On a préféré le nom qu'ils ont donné. Donc ça, c'est une reconnaissance mondiale, en fait, du concept. Alors le concept, il ressemble à ça, d'un point de vue purement conceptuel. Une grande gamelle dans laquelle vous avez le sel combustible. Ce sel circule autour, là, c'est une couverture fertile qui n'est pas indispensable, qui sert à être surgénérateur ou au moins exactement régénérateur. Si vous ne la mettez pas, le réacteur sera légèrement sous-générateur, mais ce n'est pas grave. Il peut y avoir quelques réacteurs qui surgénèrent et puis après vous gérez la matière fissile. Et puis vous avez des échangeurs de chaleur, une pompe, enfin des pompes, et vous voyez qu'il y a des secteurs en fait, un certain nombre de secteurs qui permet de faire circuler le sel. À l'intérieur, vous voyez des bulles, parce que ça, c'est quelque chose qui avait été prévu par les Américains. On injecte du gaz à l'intérieur, des petites bulles, et ça nettoie le sel. Parce qu'il y a des fissions. Avec ces fissions, il y a des produits de fission. Ces produits de fission ne sont pas tous solubles dans le sel. Il y en a qui le sont, mais il y en a qui ne le sont pas. Il y a les gaz, et puis il y a un gaz, c'est xénon, krypton, c'est déjà une grosse partie. Et puis vous avez des métaux comme le molybdène, comme le technétium, qui ne sont pas solubles. Donc ils vont faire des petites particules à l'intérieur, qui vont s'agglomérer, ils vont faire des petites particules. Alors, dans l'atmosphère, quand vous avez plein de particules, la pollution, c'est un peu trouble, il pleut, pouf, ça devient très net. Parce que les gouttes d'eau capturent toutes ces particules au passage. Il y a une tension superficielle sur la goutte d'eau. Et donc vous nettoyez l'atmosphère. Là, on fait exactement la même chose en sens inverse. Et les bulles de gaz qui vont capturer les particules qui sont dans le liquide. Mais c'est exactement le même principe. Donc ça, c'est donc un nettoyage qu'on appelle physique et qui se fait, on extrait des produits de fission dans un temps de l'ordre de 30 secondes. C'est la moitié des produits de fission qui sont extraits comme ça. Donc ça, c'est déjà très efficace. Bon, le reste, on les extrait en prenant 10 à 40 litres de sel par jour. 10 litres, en général, c'est suffisant. On peut régler ça, ça règle la régénération et ça permet de dire on fabrique plus ou moins de matière fissile suivant la politique. On veut construire de nouveaux réacteurs, on ne veut pas construire de nouveaux réacteurs. Voilà, on peut gérer de cette façon-là. Et donc, on a proposé pour le Forum Génération 4, pour ceux qui connaissent, un nouveau design, enfin une nouvelle présentation, vignette, qui devrait petit à petit apparaître plutôt. Les gens continuent à présenter la vignette avec le MSBR, mais normalement c'est celle-ci qui devrait apparaître. Alors maintenant, si on regarde plus dans le détail, ça c'est un design qui est relativement récent, qui évolue toujours. Je vais vous montrer qu'il est déjà obsolète, il a 6 mois, quelque chose comme ça, il est déjà obsolète. Mais en gros, vous avez un cœur avec le sel qui va circuler là-dedans. Alors, d'abord, il faut imaginer, vous avez une cuve, vous la voyez là, en gris, la cuve. Ça, c'est la cuve réacteur. Donc, vous avez une grande marmite que vous remplissez avec le sel. Fictivement, parce que vous allez d'abord faire d'autres choses avant, mais fictivement, vous l'imaginez rempli avec du sel. Et puis, ces éléments-là, vous voyez, là, il y en a plusieurs, sont des secteurs, on appelle ça des secteurs, et on les plonge à l'intérieur. Donc ils sont à l'intérieur de la cuve. Et dans ces secteurs-là, vous avez des échangeurs de chaleur, vous avez une pompe qui est située quelque part par là, vous avez une couverture fertile, une protection neutronique pour protéger les échangeurs de chaleur des neutrons. Donc tout ça est intégré et est à l'intérieur. Alors pourquoi on fait ça? C'est dans la même logique de quand il y a un problème, on supprime le problème plutôt que de mettre une rustine. Si vous avez un liquide et des tuyaux, à un moment donné, le tuyau, il fuit. Forcément. Hein, vous avez fait de la plomberie chez vous. Donc, forcément, ça arrive. Donc, on va dire que les fuites, on s'en fout. On va avoir des fuites. Et là, effectivement, on est à l'intérieur. La pompe, elle gave, en fait, l'échangeur de chaleur et ça ressort ici. Mais tout ne passe pas dans l'échangeur de chaleur. Il peut y avoir des fuites. Ça passe autour. C'est pas grave. De toute façon, c'est à l'intérieur de la cuve. Donc, on a supprimé le risque fuite, tout simplement, en faisant ça. Bon, Autour, c'est là qu'il y a une différence, c'est qu'autour, vous avez des réservoirs de stockage. À un moment donné, vous devez vider le cœur pour pouvoir faire une maintenance, ne serait-ce que changer des secteurs. Donc, vous devez les mettre ailleurs. Et donc, on avait prévu de les mettre autour. Et en fait, ça pose problème. Je vais dire après pourquoi. Et puis, en dessous, vous avez un grand collecteur. Et puis, si jamais il y a un problème, les systèmes de vidange, ils sont placés par là. Ça s'ouvre et on va aller vers un système de vidange qu'on est en train de concevoir et qui est censé refroidir passivement le sel avec une grande inertie thermique pour pouvoir attendre que la puissance résiduelle baisse avant d'être obligé d'évacuer la chaleur. Alors, qu'est-ce qui nous pose problème ici? C'est que si vous voulez faire une maintenance sur le système de réservoir de stockage d'urgence, de vidange d'urgence, vous ne pouvez pas le faire parce que le sel, il est soit là, soit là. Et donc, il y a toujours une possibilité qu'il soit vidangé pendant que vous êtes en train de faire la maintenance. Donc, ce n'est pas possible. Ça veut dire que ces réservoirs-là, il faut les déporter. Donc, on les met ailleurs. Et donc, il y a forcément deux endroits pour pouvoir faire une maintenance sur le système de vidange d'urgence. Donc voilà, petit à petit, on bouge les choses comme ça pour essayer d'arriver à un concept complet. Et donc ça ressemble à ça, c'est ce que je viens de vous montrer, où vous imaginez que ce qui est rose ici, c'est à côté, dans un autre bâtiment, enfin une autre pièce. D'accord ? Et puis le réservoir de vidange d'urgence, alors lui, c'est le même principe que le cœur, c'est des barres de refroidissement. Chaque barre que vous voyez là, ce sont des barres de refroidissement qui sont plongées dans une grande cuve, qui sont hexagonaux, dans lequel il y a un fluide de refroidissement qui circule. Alors pendant un temps, on avait pensé mettre de l'eau, et puis on s'aperçoit que l'eau peut avoir une interaction avec le sel un peu violente, donc on ne veut pas mettre d'eau, donc on va commencer des études avec un gaz. Et donc entre les hexagones, il y a un petit espace de quelques centimètres, et le sel va se mettre à cet endroit-là. Quand on vide, il va se placer autour de tout. Alors ça ne se voit pas, c'est juste les petits traits qui sont là. Le sel va se répartir autour de tous ces systèmes de refroidissement. Et le système de refroidissement, en fait, il est passif dans le sens où c'est la convection naturelle qui va permettre d'évacuer la chaleur. Donc il faut dimensionner tout ça de manière à ce que ça puisse se faire. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas refroidir avec l'air extérieur parce qu'on passe à proximité du combustible. Donc il faut qu'il y ait un deuxième échangeur. Donc voilà. Alors les caractéristiques, en fait, je pense que ça vous intéresse que très moyennement. En gros, il faut quand même savoir qu'on fonctionne à des températures relativement élevées. C'est 600, 700, 800 degrés même, à certains endroits pour le sel. On a une limite pour les parois à 700 degrés. On s'est donné cette limite. Elle n'est peut-être pas obligatoire. La puissance, on a fixé une puissance à 3 gigawatts thermiques, parce qu'il faut bien fixer quelque chose. On va commencer bientôt une thèse en collaboration avec Areva où on va étudier un réacteur de beaucoup plus faible puissance. Donc là, c'est faire un SMR, un small modular réacteur, sur ce principe-là. Mais voilà. Ensuite, ça, c'est on a besoin de 5 tonnes d'uranium-233. Alors, il n'y a pas d'uranium-233 dans la nature, je vais y revenir après. Mais il faudrait 5 tonnes, mais ça veut dire 3,6 tonnes par gigawatt électrique. Et ça, c'est vraiment très faible. Un réacteur comme Superphénix, qui était déjà très bien designé pour ne pas gaspiller matière fissile, on était plutôt aux alentours de 8-10 tonnes de plutonium-239 nécessaire. Quand on compte tout, on compte ce qui est dans le cœur du réacteur, mais aussi ce qui est au retraitement. Vous savez que vous sortez le combustible, vous faites refroidir, vous allez le retraiter, puis après vous pouvez le ramener. Ça prend plus de temps que le temps qui reste dans le cœur du réacteur. Et donc vous avez au moins 2 charges complètes. Là, ce n'est pas le cas, on n'a qu'une seule charge. On a juste quelques litres à l'extérieur. Un litre peut-être. Donc c'est relativement faible. On a 18 mètres cubes, la moitié se trouve dans le cœur du réacteur, l'autre moitié dans les parties de recirculation ici, mais tout à l'intérieur de la cuve réacteur. Vous voyez, voilà. Retraitement du cœur, bon, j'en ai vaguement parlé. Les dimensions, c'est typiquement 2 mètres sur 2 mètres. Mais vous voyez que la forme, c'est pas un orthocylindrique. Hein. Il y a une forme qui permet d'avoir une circulation fluide correcte, donc qui a été étudiée exprès. La couverture fertile, c'est le même sel que le sel combustible, sauf qu'il n'y a pas de matière fissile dedans. On la fabrique à l'intérieur, donc il y en a beaucoup moins. Les coefficients de contre-réaction, Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est plusieurs PCM par degré, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est ce que je vais vous montrer après, les conséquences de ce truc-là, mais vous voyez que c'est systématiquement négatif, et le total, mais aussi, il y a que deux types de coefficients, le coefficient de densité, changer la température, ça change la densité, vous faites passer une bulle à l'intérieur, ça change la densité, et le coefficient Doppler, qui est un effet... oui.
Ce ne serait pas inutile de rappeler le coefficient de température, le coefficient de vide, qu'est-ce que c'est ? Expliquer physiquement qu'est-ce que ça représente.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le bol.
Oui.
C'est le bol, ça.
Parce que les gens qui n'ont pas fait les études que nous avons faites,
d'accord,
sont peut-être un petit peu perdus.
Donc ces coefficients, c'est ce dont je vous ai parlé avec le bol. C'est la force du ressort, en fait. Il y a un ressort qui renvoie, et donc c'est la force du ressort. Alors, les valeurs ne vous disent rien, par contre, ce que je vais vous montrer après, vont vous montrer que le ressort, il est très fort. Voilà. Et puis, on peut surgénérer des quantités relativement importantes de matière fissile, mais on s'aperçoit, quand on fait des scénarios, que de toute façon, on en a toujours trop. Parce que, bon, on a déjà du nucléaire qui est déployé, donc il y en a déjà du plutonium, on a déjà de la matière fissile. Et donc, il n'y a pas de problème pour déployer ce type de réacteur. Il y a un peu plus de problèmes pour des RNR genre Superphénix ou Astrid qui devraient être construits parce que l'inventaire fissile est plus important. Mais globalement, généralement, ce n'est pas un problème. Les spectres neutroniques. Alors, j'explique un peu ce que c'est. Vous avez ici l'énergie du neutron qui se promène là dans le cœur du réacteur. Il a une certaine énergie, bon, c'est donné en électronvolts, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. L'échelle est logarithmique, c'est-à-dire que chaque fois que vous passez d'un trait à l'autre, vous multipliez par 10. Et puis ici, c'est le nombre de neutrons, alors par centimètre carré, par neutron source. Pareil, c'est logarithmique, donc vous avez un facteur 10 chaque fois que vous multipliez par 10. Et ça, c'est le spectre d'un REP, un réacteur qu'on utilise en France. Alors, au passage, pour ceux qui ont eu l'habitude de faire ce genre de choses, ils n'ont jamais vu des spectres avec une telle finesse, parce que les codes déterministes, justement, ne permettent pas de faire ça. Enfin, maintenant, avec 1800 groupes, ils y arrivent. Mais il y a 30 ans, c'était impossible. Bon, nous, on l'a naturellement avec les codes Monte Carlo. Toute la précision qu'on veut, toute la finesse qu'on veut, on peut regarder tous les détails. Donc ça, c'est un gros avantage. Et aussi, pour faire un peu de physique, on dit que les REPS, c'est des réacteurs à neutrons thermiques. Les neutrons thermiques, c'est eux. C'est juste eux. Vous voyez qu'il y a tout ça aussi. Ça, c'est pas du thermique, c'est du rapide. Mais comme les sections efficaces, les probabilités d'interaction des neutrons sont 100 fois plus grandes quand ils sont thermiques que quand ils sont rapides, c'est cette partie-là, c'est dans cette partie-là que se produisent toutes les réactions. L'essentiel des réactions qu'il y a dans le cœur du réacteur, c'est eux qui les font. Ceux-là ont une probabilité trop faible pour les faire. Voilà.
Donc c'est un régénérateur thermique avec...
Non, ça c'est un REP.
Ah, ça c'est un REP. Oui.
Ça c'est un REP, c'est, ouais. D'accord. Un réacteur repressurisé. D'accord. Ça, c'est un RNR caloporté sodium, genre Superphénix. On le reconnaît parce que là, il y a un petit trou. Là, c'est le sodium qui fait ça. D'accord. Alors, vous voyez que lui, il est vraiment... Les neutrons sont tous rapides et il n'y en a pas du côté thermique. Donc, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et donc, le MSFR, vous voyez qu'il est un peu différent. Là, il manque des neutrons à cet endroit-là. Et ça, c'est lié au fluor. Le fluor, lorsqu'un neutron rencontre le fluor, il perd de l'énergie. Il y a une diffusion inélastique, c'est-à-dire qu'il diffuse et il perd de l'énergie en le faisant. Et donc, comme il y a beaucoup de fluor et qu'il y a une forte probabilité de le faire, bah, tous les neutrons qui ont des énergies relativement importantes ici font cette diffusion inélastique, perdent leur énergie et se retrouvent dans la bosse qui est là. Voilà. Et donc, le spectre, ce n'est pas vraiment un spectre rapide. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais... Avec le cycle uranium-plutonium, ça marche moins bien, parce que c'est exclusivement les neutrons de ces énergies-là qui permettent d'avoir la régénération avec le cycle uranium. Avec le cycle thorium, tous les neutrons font l'affaire. Le cycle uranium, il faut absolument avoir ces neutrons-là, et là, on en a 10 fois moins. Et donc, ça pose problème pour la régénération, pour le plutonium, l'uranium-plutonium. Mais c'est aussi un avantage, c'est que si vous avez moins de neutrons rapides ici, eh ben c'est que vous avez moins de dégâts aux matériaux. Et effectivement, quand on compare entre ces deux spectres, on trouve en gros un facteur 7 de dégâts aux matériaux en moins. C'est-à-dire que tous les matériaux qu'on utilise vont vivre 7 fois plus longtemps, ce qui n'est pas négligeable du tout. Alors, maintenant, je vous ai beaucoup parlé de coefficients de contre-réaction, et je vais vous montrer maintenant un peu Quelles sont les conséquences, à quoi ça sert, comment ça marche. Alors, je vais vous montrer comment on pilote un réacteur par la demande. Alors, ce que je vais vous montrer, ça se fait sur les REP, nos réacteurs, les 58 qu'on a en France, mais à plus ou moins 5%. C'est RTE, à distance, qui décide d'augmenter ou de baisser la puissance du réacteur. Et il le fait comment ? Bah, vous avez un réacteur, donc là, c'est un réacteur à sel fondu. Il fonctionne, il a une certaine température. Bon, là, il est à 900 K. Il a une réactivité. La réactivité, en fait, c'est coefficient de multiplication. C'est plus facile à comprendre. Sur un certain temps, vous avez créé un certain nombre de neutrons, vous allez en supprimer un certain nombre par capture. Ce rapport doit être égal à 1 si vous ne voulez pas que les choses partent dans les choux. Et la réactivité, c'est ça moins 1, un petit coefficient près. Et donc, elle vaut 0, la réactivité. Donc, la réactivité, elle doit être à 0, elle doit toujours être à 0. C'est ça qui dit, on fait à chaque fission, on va avoir une autre fission derrière et seulement une. Et puis, bon, il produit une certaine puissance. À un moment donné, la demande de puissance augmente. C'est-à-dire que, tout simplement, dans le niveau des alternateurs, vous pompez un peu plus de puissance, ce qui va pomper de la chaleur sur le circuit intermédiaire, etc. Et ça va venir refroidir le cœur du réacteur. On va tirer plus d'énergie. Donc on refroidit le réacteur. Quand le réacteur se refroidit, la réactivité augmente. Ça, c'est le coefficient de contre-réaction. Vu en sens inverse cette fois-ci. Puisqu'on baisse la température, comme le coefficient de contre-réaction est négatif, hop, ça augmente la réactivité. Puisqu'on augmente la réactivité, ben, on augmente la puissance. On a plus de fissions qui se produisent. Si on augmente la puissance, ben, on remonte la température. En remontant la température, on ramène la réactivité à zéro, là où elle doit être, mais la puissance, elle reste plus élevée. En fait, le réacteur fournit la puissance qu'on lui a demandée. D'accord ? Donc sur un REP, on fait ça à plus ou moins 5%. Là, sur un réacteur à sel fondu, vous voyez qu'on a demandé 50% de plus. Ça se passe en 10 secondes.
Donc, il n'y a pas de barre.
Donc il n'y a pas de barre dans le réacteur. On n'en a pas besoin. On peut piloter sans avoir besoin de barre. Et d'ailleurs, ça va plus loin que ça, parce que là, on a une très très longue discussion avec l'IRSN qui veut absolument avoir une barre de contrôle jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre, on a réussi à la faire comprendre, que si on met une barre de contrôle, on rajoute un risque. Parce que la barre, elle peut ne pas fonctionner. Si on n'a pas la barre, il n'y a pas de risque qu'elle ne fonctionne pas. Donc, voilà. Et ils ont dit, ah bah oui, c'est vrai. Bon. On peut faire en sens inverse la même chose, baisser la puissance de la même manière. Alors, cette simulation-là, elle est faite avec une modélisation très simpliste. Donc, vaguement fiable. Elle est fiable ici, elle est fiable ici, mais pas trop ici. Donc, voilà. D'où ce que je vais vous montrer après. Bon, il ne faut pas non plus que les températures bougent trop ici, sinon on risque d'avoir des problèmes. Alors, du coup, on a des températures qui sont un peu extrêmes. Donc là, je vous montre une difficulté qu'on a, qui se trouve dans les échangeurs de chaleur. Il faut comprendre que dans les échangeurs de chaleur, d'un côté, on a le sel combustible, d'autre côté, on a ce qu'on appelle le sel intermédiaire. Le sel intermédiaire, on en a la quantité qu'on veut. Le sel combustible, on en a 18 mètres cubes, et pas plus. Parce que si on en augmente, alors on aura plus de matière fissile dedans, et si on a plus de matière fissile, c'est plus difficile à déployer. Donc, il faut limiter ce volume. Et dans ces 18 mètres cubes, il y en a 9 dans le cœur, il y en a dans les 6000 acres de tuyaux, c'est pas vraiment des tuyaux, mais c'est pareil, dans les pompes, dans les... Et puis, il y en a dans les échangeurs, et en fait, dans les échangeurs, on a du mal à en avoir plus que 3 ou 4 mètres cubes. Et avec ces 3 ou 4 mètres cubes, il faut évacuer 3 gigawatts. Donc, c'est pas simple, c'est pas évident, et c'est la contrainte qu'on s'est fixée, on s'est dit, on voudrait arriver à faire ça. Et alors, quand on regarde maintenant... ce qui se passe dans l'échangeur de chaleur. Alors, déjà, j'explique, je vous disais qu'on était à haute température, que les matériaux, on s'est fixé 700 degrés de maximum, mais tous les matériaux autres que ce qui concerne les échangeurs de chaleur peuvent être protégés thermiquement. C'est-à-dire qu'on met une couche d'un matériau, probablement du SiC, carbure de silicium, qui supporte très bien le sel, très bien les neutrons et très bien la haute température. Derrière, on met un refroidissement avec le sel intermédiaire et donc les matériaux, on va les maintenir toujours à 500-550 degrés. Ce sont des températures tout à fait standard pour n'importe quel matériau, donc il n'y a pas de problème. Mais dans les échangeurs de chaleur, on ne peut pas faire ça, évidemment, parce qu'il doit transférer la chaleur. Et le sel est un très mauvais conducteur thermique. Ça, c'est aussi un problème. Et donc, ça veut dire que là, vous avez par exemple une plaque de l'échangeur. L'échangeur, vous avez celle d'un côté et un sel intermédiaire de l'autre. Et là, vous avez le profil de température à l'intérieur. Vous voyez que c'est tout petit, hein, ça fait 1 mm. En fait, ça en fait 2, hein, parce qu'on est au milieu. Et donc, vous avez un profil de température. Ensuite, vous avez une perte de température dans le matériau qui fait qui est entre les deux. Et puis, finalement, une autre perte de température pour arriver sur la température basse du fluide intermédiaire. Ça, c'est là où le sel est chaud dans le cœur, et ça, c'est là où il est froid. Donc, ça, c'est en bas, et ça, c'est en haut. Et vous voyez donc ce qui se passe. Et il y a des limites. Il ne faut pas que les matériaux ici soient plus chauds qu'à une certaine température. Donc, ça nous limite en fait la température maximum là. Il ne faut pas que la température ici soit plus basse qu'une certaine température, sinon le sel va solidifier. Voire il peut y avoir des précipitations d'un certain nombre de choses et on craint une précipitation de plutonium, c'est pas très bon. Donc là, on a il faut au moins avoir une certaine température. Donc vous voyez qu'il y a on est pris entre deux là. Et puis ici, bah, il faut que le sel intermédiaire il soit liquide. Voilà. Donc toutes ces contraintes, en fait, on les intègre dans un programme un peu compliqué et qui dimensionne le réacteur. En fait, il calcule des millions, voire des milliards de réacteurs différents et il cherche le meilleur réacteur, celui qui respecte le mieux des contraintes de ce type-là, mais on en met plein d'autres de contraintes, les vitesses du sel dans les tuyaux, les pertes de charge, la puissance des pompes, tout ça. On contraint tout ça, on fait ce qu'on appelle un algorithme génétique et on brasse tout ça et on arrive à avoir une configuration. Et en fait, on trouve des configurations qui permettent d'échanger les 3 gigawatts. Alors maintenant, je vous remontre ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais cette fois-ci avec un code beaucoup plus sophistiqué. Il s'agit d'un couplage neutronique thermohydraulique fort, c'est-à-dire qu'à chaque pan en temps de calcul, on traite les deux physiques simultanément. On traite l'écoulement du sel et en même temps les neutrons, les fissions, les captures, etc. Tout est traité simultanément, tous les microsecondes, et on regarde ce qui se passe. Et avec ça, on peut regarder des transitoires, parce que si on fait un transitoire, on voit que l'écoulement va se passer différemment, des choses comme ça. Et donc là, on regarde un transitoire gentil, on passe de 1 gigawatt thermique à 3 gigawatts en 10 secondes. Bon, gentil. vous allez voir que tout à l'heure, c'est moins gentil que ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait varier le débit des pompes, aussi bien du circuit intermédiaire que du circuit primaire, de manière à ce que vous augmentez d'un facteur 3 la puissance, mais vous ne changez pas le delta T dans le cœur. Donc vous circulez 3 fois plus vite pour évacuer 3 fois plus de puissance dans le même temps. Donc vous allez plus vite, tout simplement, pour évacuer plus. Si vous devez vider quelque chose 3 fois plus vite, il faut faire 3 fois plus de pelleté dans le même temps. Donc on maintient cet écart de température fixe et voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est la fameuse réactivité dont je vous ai parlé. Oui.
Comment est-ce que vous vous protégez ?
Protégez.
Des rayons,
la
radioprotection. Là, ça c'est très très loin. Là, on est dans le cœur. Dans le cœur, on ne va pas y aller, hein, ça c'est clair. Il y a la cuve. Après, il y a une enceinte. Réacteur, une enceinte, c'est pas le bâtiment. Voilà. Et ensuite, il y a le bâtiment réacteur. Voilà. Et donc, c'est à l'intérieur de l'enceinte réacteur qu'on contient toute la radioactivité. Et que donc, après, il y a toutes les protections connues, on sait faire, pour empêcher que les neutrons sortent, genre mettre du polystyrène. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment. C'est ce que j'appelle les problèmes d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on sait gérer ce genre de choses. Je ne m'inquiète pas sur le fait que le jour où des ingénieurs devront construire le réacteur, ils trouveront les bonnes épaisseurs de parois, les bons matériaux, etc., de manière à ce que ce soit parfait. Voilà. Non, mais bien sûr que c'est une bonne question. Non, il n'y a aucun. C'est une très bonne question qu'on se pose et on y réfléchit. Alors, donc cette réactivité, là, ce n'est pas exactement la même chose. Ce qu'on appelle le KP, c'est le coefficient de multiplication uniquement avec le neutron prompt. Vous savez que quand vous faites une fission, il y a des neutrons qui sont émis immédiatement au moment de la fission. On appelle les neutrons prompts. Et puis un peu plus tard, il y a des fragments de fission qui, quand ils décroissent, émettent des neutrons. Ce sont les neutrons retardés. heureusement qu'ils sont là, sinon ce serait impossible de faire fonctionner un réacteur nucléaire. Dans un REP, il y a environ 700 PCM. PCM, c'est parti pour 100 000. C'est-à-dire, pour 100 000 neutrons, il y en a 700 qui sont des retardés. Ici, vous n'en avez que 130. Ça, c'est en fait l'équivalent. Il n'y en a que 130. Pourquoi il y en a si peu? D'abord, parce qu'avec le cycle thorium, il y a beaucoup moins de neutrons retardés. Il n'y en a que 330 au lieu de 700 dans un REP. Mais vous avez une partie du combustible qui circule en dehors de la partie du cœur. Et là, vous avez des neutrons retardés qui apparaissent dans les échangeurs de chaleur, dans les pompes. Le sel y revient, ces neutrons vont être créés pas là où il y a le maximum de flux. Ça va être uniforme, pas n'importe où. Et donc, on n'a pas du tout le même nombre de neutrons retardés. Alors ça, c'est une question qui était vraiment posée en disant, est-ce que, malgré ça, le réacteur va pouvoir être stable? Et donc, vous voyez que dans ce transitoire-là, vous perdez un peu de neutrons retardés parce qu'il y a un gros transitoire et ça fait monter la réactivité. Et puis, ça se corrige immédiatement pour revenir à terme à la valeur initiale, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que les neutrons retardés, c'est en moyenne une dizaine de secondes, donc il faut plusieurs centaines de secondes pour revenir à situation normale. Ça, c'est la puissance. Il y a deux courbes, une rouge et une bleue. Il y en a, la bleue, c'est... je ne sais plus. Il y en a une des deux, c'est la demande. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On demande un peu plus. Et la rouge, c'est ce que donne le cœur. C'est la puissance qu'on extrait. C'est la même chose. Vous voyez l'échelle de temps. Le réacteur réagit instantanément. Et ça, ce sont ces coefficients de contre-réaction très forts. C'est le ressort qui fait qu'il se met immédiatement à la bonne valeur. Et ça, c'est les températures en bas du cœur, en haut du cœur, au milieu. Et vous voyez qu'en fait, il y a une très faible variation de température et les parois vont voir encore moins que ça. Donc on peut faire varier d'un facteur 3 la puissance, les matériaux ne s'en aperçoivent même pas. Donc pas de fatigue. Vous savez, les matériaux, ils fatiguent quand on change les températures et au bout d'un moment, il faut les changer, mais là, pas de fatigue. Donc il y a juste les pompes. Je vous rappelle qu'on fait varier le débit des pompes. Donc ça, c'est tout ce que j'ai raconté. Alors, le circuit de conversion lui-même ne peut pas aller à ce rythme-là. On ne peut pas passer de 1 gigawatt à 3 gigawatts en 10 secondes. Les alternateurs, tout ce qui est là, on ne saura pas faire ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le cœur du réacteur n'est pas du tout une contrainte pour un suivi de charge. Alors, suivi de charge, ça veut dire vous pouvez piloter le réacteur pour être en même temps avec des éoliennes. Il y a du vent, on baisse les réacteurs, il n'y a plus de vent, on remonte en puissance. Vous faites ça autant de fois que vous voulez. Ça ne pose pas de problème. Alors, IRSN nous a dit, oui, mais bon, c'est bien beau tout ça, mais on aimerait bien savoir avoir un accident grave. Parce que dans un REP, l'accident grave, c'est la fusion du cœur. Bon, nous, on est déjà fondu, donc on est en situation d'accident grave permanent. C'est un peu un problème, donc ils aimeraient bien qu'on définisse un accident grave, qu'on trouve un accident grave. Alors, on a cherché, on a essayé, on a fait plein de choses. Le réacteur, il s'en fout. Et donc, on a quand même trouvé une situation. Alors, c'est celle-ci. C'est un surrefroidissement. Alors, vous remplissez le cœur du réacteur avec un combustible bien neuf. Il faut qu'il soit neuf pour qu'il n'y ait pas de radioactivité à l'intérieur, avec tout ça, qu'il n'y ait pas de neutrons. Et puis, il est bien, il est en circulation, tout ça. Mais le circuit intermédiaire, lui, il ne fait rien. Et puis, d'un seul coup, instantanément, il y a un opérateur qui appuie sur le bouton et on passe le circuit intermédiaire. Au lieu de demander zéro, il demande 3 gigawatts. Instantanément. Et évidemment, infaisable. Mais voilà, on regarde quand même ce genre de choses. Et ça donne ça. Donc vous avez le cœur du réacteur, ça c'est un peu le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Le système là, on refroidit ici. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le sel il fait un tour en 3 à 4 secondes. Dans la simulation ici, c'est 4 secondes. Et donc au bout d'une seconde, vous voyez qu'on commence à avoir du sel froid qui arrive à l'intérieur. Sel froid qui arrive à l'intérieur, on fait augmenter la réactivité, donc la puissance va monter. La puissance monte, au bout de 2 secondes, vous voyez, donc ce qu'on montre ici, c'est les températures. Au bout de 2 secondes, vous voyez que les températures sont montées. Évidemment, on n'était pas en température avant, puisqu'on n'avait pas de puissance. Et puis au bout de 4 secondes, on est à l'équilibre. Au bout de 4 secondes, le réacteur, il retrouve sa situation normale de fonctionnement. Donc, ça ne l'a pas vraiment embêté. Alors, pas tout à fait. si vous regardez dans le détail maintenant, donc là, cette fois-ci, ce n'est pas instantané, mais vous le faites en une seconde, deux secondes, quatre secondes, huit secondes. Enfin, on refait les mêmes calculs à chaque fois. Et vous avez la même chose que je vous montrais tout à l'heure, le cas prompt, la puissance et la température. Et là, vous voyez quelque chose de particulier. Le zéro est là. Il est interdit de passer au-dessus de zéro. Tchernobyl est passé au-dessus de zéro. D'accord ? Donc là, accident grave, ça y est, on le tient. On est passé au-dessus de zéro. Mais alors, on regarde la puissance. Ah oui, quand même, on a un petit quelque chose ici. On est monté à plus de, près de 20 gigawatts. Donc, c'est quand même une puissance importante. Ça dure 2 centièmes de seconde. Au bout de 2 centièmes de seconde, c'est redescendu. Le pic, là, il dure 2 centièmes de seconde. Et on regarde la température. On voit ce qui se passe. 2 degrés. Le sel est chauffé de 2 degrés. Donc, ça fait une dilatation qui est relativement importante. Le sel, en fait, sort du cœur du réacteur. Il y a un niveau libre, un endroit qui est prévu justement pour ça. Donc, il y a un flux de sel qui va sortir à cet endroit-là. Il faut dimensionner le diamètre du canal qui permet de sortir de manière à supporter le débit qui correspond ici, parce que ce débit est relativement important. Mais ce n'est pas non plus un diamètre de 10 cm, fait l'affaire. S'il est trop petit, on va l'arracher, tout simplement. Donc, voilà. Mais si on le dimensionne correctement, tout va bien, et le réacteur se met à fonctionner normalement. Il est à sa puissance nominale. On va l'arrêter, parce que ce n'est pas normal d'avoir fait ça, mais il ne s'est rien passé pour le réacteur, il n'y a pas de conséquences. Quand on a commencé à présenter ça, les gens ont dit « Ouais, c'est pas possible, criticité prompte, c'est interdit, c'est sûr que ça va mal se passer. » On a essayé d'insister et tout, jusqu'à ce que quelqu'un nous dise « Oui, mais pas loin d'ici, alors, je ne sais jamais plus comment ça s'appelle le nom, on va parler tout à l'heure, à la dame. »
À Val-Duc,
il y a un réacteur qui s'appelle Silène, qui est un réacteur à combustible liquide, c'est de l'eau, et qui sert à faire des criticités promptes. Exactement ce scénario-là. Ça permet de faire des bursts de neutrons. Et donc, il fait plein de bursts de neutrons, le réacteur ne subit aucun dégât en devenant critique prompte. Voilà, on a redécouvert quelque chose qui était connu depuis très longtemps, un avantage des combustibles liquides, et donc on n'a toujours pas notre accident grave. Ok, alors je ne sais pas combien de temps il me reste. Là j'arrive dans les.
Un quart d'heure.
Un quart d'heure. Oh, ça va, cool. Alors, je vous ai dit à un moment, on n'a pas d'uranium-233. On veut fonctionner au thorium. Alors comment on fait? Alors. Pour un réacteur nucléaire, en fait, on a toujours besoin de matière fissile pour démarrer le réacteur. C'est quelque chose de spécifique au nucléaire. Dans une centrale à gaz, vous rentrez dedans le gaz qu'il faut pour brûler dans les secondes qui viennent. Là, vous mettez à l'intérieur de quoi fonctionner pendant 3 ans. Dans un REP, vous mettez à l'intérieur de l'uranium-233 qui est nécessaire pour 3 ans, en fait. Et donc c'est comme si vous mettiez pour 3 ans de gaz dans une centrale à gaz, vous mettez le feu, vous voulez que ça se passe bien. C'est là que vous comprenez que le nucléaire, c'est quand même quelque chose qu'il faut contrôler correctement. D'accord ? On a potentiellement... Alors il y a quelque chose qui est presque équivalent, mais c'est un ordre de grandeur en dessous, c'est les grands barrages. Vous avez potentiellement une énorme quantité d'énergie. Si vous cassez le barrage, les dégâts sont monstrueux. Donc c'est vrai que le nucléaire, c'est quand même quelque chose de dangereux et qu'il faut contrôler correctement. Donc vous avez besoin de cette matière fissile pour pouvoir démarrer, juste la mise de départ. Alors, dans les réacteurs actuels, on en a besoin aussi pendant toute la vie du réacteur. Il faut, à chaque recharge, on remet de la matière fissile, parce qu'il ne fabrique pas sa propre matière fissile. Dans un réacteur régénérateur, on a besoin qu'une seule fois au démarrage, et puis après on prend la matière fissile fabriquée par le réacteur lui-même. Je vous ai déjà expliqué que dans un réacteur à combustible solide, en fait, il y a au moins 2 charges, puisqu'il y a celui qui est au retraitement pendant qu'il y a celui qui fonctionne à l'intérieur. Dans le cas d'un combustible liquide, il n'y a qu'une seule charge. Alors, comme matière fissile, il y a l'uranium-235, 0,72% d'uranium disponible dans la nature. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, On peut toujours démarrer à l'uranium-235. Rien ne nous empêche de mettre de l'uranium enrichi dans le réacteur. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc dans ce genre-là. Mais à partir de cet uranium-235, d'une manière ou d'une autre, on va fabriquer du plutonium-239 ou de l'uranium-233. D'une manière ou d'une autre. Actuellement, on fabrique du plutonium-239 dans les REP. Alors, pour démarrer notre filière, on a trois solutions. On peut démarrer directement à l'uranium-235. Bon, on s'aperçoit qu'il faut des enrichissements relativement importants si on veut exclusivement uranium enrichi. Et ça peut être au-dessus des 20%, qui est une limite qu'on s'est donnée internationalement, au-delà duquel on n'a pas le droit d'enrichir l'uranium. Donc, c'est peut-être pas possible de faire exclusivement à l'uranium-235. On peut démarrer au plutonium des REP actuels, je vais dire qu'on produit du plutonium, donc on peut utiliser ce plutonium-là, et mieux, on peut prendre tous les transuraniens, c'est-à-dire ces fameux actinides qui sont plus lourds, neptunium, américium, curium essentiellement, on peut les mettre dans le cœur du réacteur. Ces coefficients de contre-réaction sont tels que on peut vraiment mettre n'importe quel combustible à l'intérieur, à partir du moment qu'on est critique, tout va bien. Et puis on peut produire de l'uranium-233 ailleurs, et venir le mettre après dans le cœur du réacteur. Évidemment, la solution, c'est de faire un mix de tout ça. Vous faites un mélange de toute la matière fissile que vous pouvez trouver un peu partout pour pouvoir démarrer. Et donc, on a fait des scénarios avec toutes sortes de réacteurs qui produisent de l'uranium-233, d'autres du plutonium, on enrichit de l'uranium ailleurs, et puis on fait... Voilà. Alors, bon, ça, je vais passer pour aller un peu plus vite. Je vous montre maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait regarder l'évolution du combustible au cours du temps. Donc là, c'est le démarrage normal à l'uranium-233. Alors normal, oui, quand on en aura. Donc ça, c'est l'uranium, ça, c'est le thorium. Toujours, c'est une échelle log, hein, faites attention. Ici, c'est 200 ans. 200 ans, c'est parce que le combustible peut vivre 200 ans. On le passe d'un réacteur à l'autre, hein, il n'y a pas de problème. Et puis vous voyez, contrairement à ce qu'on peut vous dire tout le temps, le thorium, il n'y a rien, non, vous avez quand même 300 kg de plutonium à l'intérieur. Donc il y a du plutonium. C'est à moitié plutonium 238, moitié plutonium autre. Il y a du neptunium, du protactinium bien sûr, il y a un peu d'américium curium, 6 kg chacun. Donc voilà, on produit ça et vous voyez qu'il faut très longtemps pour arriver à une situation d'équilibre. Et ça, c'est lié à un spectre rapide. Les spectres rapides sont très très longs à se mettre à l'équilibre, alors que les spectres thermiques comme un REP, en l'espace d'une vingtaine d'années, ça y est, on a atteint le régime stationnaire. Donc les gens, quand ils vous montrent des scénarios avec des RNR sodium, caloporté sodium, et qui vous montrent le scénario à l'équilibre, et le transitoire. Le transitoire, il va durer 200 ans. Donc si ça se trouve, on va ne faire que le transitoire. Et on ne sera jamais à l'équilibre. Ça, c'est le cas où on veut démarrer directement avec le plutonium et les transuraniens qui viennent des REP actuels. Donc on voit qu'on consomme le plutonium, ici. En pointillé, c'est celui que je vous ai montré avant. Et donc, en très plein maintenant, c'est le démarrage avec les transuraniens. Et donc, on consomme le plutonium. Vous voyez qu'on finit par arriver à la même situation, mais c'est long. On met 200 ans à oublier la façon dont on a démarré le réacteur. D'accord. On a même un peu de californium qui apparaît à un moment donné. Voilà. Sauf que là, on a un problème. C'est que le plutonium, il est soluble dans le sel, mais pas tant que ça. De l'ordre de 6%. Et donc, aux incertitudes près, on ne peut pas faire le démarrage. Quelques années après, tout va bien. Mais les premières années, on risque d'avoir du mal. Alors, il y a des solutions. On peut fonctionner à un peu plus haute température. Voilà, on peut faire des choses. Mais donc, a priori, on se dit non, on va éviter ça. Alors, je vous montre une autre façon de faire. Alors, je suis désolé, c'est une belle abac. Les physiciens, ils aiment bien faire ce genre de choses, avec des trucs dans tous les sens. C'est plein de démarrages différents. Là, vous avez le rapport entre la quantité de thorium et la quantité de thorium plus uranium. On met de l'uranium enrichi dedans. Donc, voilà. Là, c'est quand vous êtes là, vous avez vraiment que du thorium. Quand vous êtes là, vous êtes plutôt à l'uranium enrichi. D'accord. Ça, c'est la limite. Alors, les courbes d'abord. Vous avez un enrichissement d'uranium à 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 100%. On ne fera jamais 100%, mais il faut toujours calculer les choses extrêmes. là, vous avez la limite d'émarrage sans les transuraniens. C'est-à-dire si vous avez de l'uranium enrichi à 20%, vous pouvez démarrer sur ce point-là. Donc ça vous dit beaucoup d'uranium, très peu de thorium. D'accord ? Et en ordonnée, bah, c'est la quantité maximum de plutonium qui est à l'intérieur, avec la limite de solubilité qui est là. Et on en prend les deux tiers en disant on ne veut pas dépasser cette limite-là comme marge. Voilà. Alors c'est pas horizontal parce que c'est pas les mêmes sels et donc c'est pas les mêmes solubilités des deux côtés. Et puis il y a à chaque courbe il y a un point intéressant. C'est un point où si au début vous avez beaucoup d'uranium, vous avez peu de plutonium et cet uranium va fabriquer du plutonium. Donc petit à petit le plutonium va augmenter puis finalement vous allez le consommer. Si au début vous avez très peu d'uranium et beaucoup de plutonium, alors le plutonium va décroître tout le temps. Et il y a un intermédiaire où la quantité de plutonium est stable pendant une vingtaine d'années avant de commencer à décroître. Et ce point-là est intéressant parce que c'est un transitoire qui est quand même plus facile à gérer pour les chimistes. Et c'est cette courbe-là. Donc finalement, on veut se mettre là, on veut avoir cette respecter cette solubilité-là, donc on choisit ce point-là. Ça, c'est un point qui a été choisi dans une étude faite EVOL, donc qui est un projet européen qui a travaillé sur ce concept. C'est ce projet qui a défini la forme que vous avez vue en diabolo, comme ça, pour l'écoulement du fluide. Et donc, on a défini ce point-là comme démarrage possible du réacteur. Et ça donne quoi ? Alors, je vous montre, ce n'est pas exactement le même réacteur, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer avec le démarrage plutonium et en disant ici, ça ne marche pas bien. Et cette fois-ci, avec le mélange dont je vous ai parlé, vous voyez que vous avez moins de plutonium au départ. Et en fait, si vous regardez dans le détail, mais bon, je ne vais pas regarder maintenant, mais si vous reprenez les plans, je regarderai dans le détail, tous les actinides sont toujours inférieurs partout par rapport à l'autre cas. Les maximums atteints pour chaque actinide est inférieur à ce qu'on atteint à démarrage plutonium. Donc c'est vraiment un démarrage qui est relativement favorable. Qui fonctionne assez bien et qui s'équilibre d'ailleurs relativement vite aussi. Vous voyez que à part le plutonium qui est beaucoup plus long à revenir, les autres ont atteint des valeurs assez rapidement. Donc voilà, ça c'est le démarrage qu'on préconise pour les premiers réacteurs. Bon, limite de solubilité, cette fois-ci on est tranquille, tout va bien. Et le dernier point dont je voulais parler, c'est un point qui paraît très important, c'est que je suis en train de vous dire, ouais, super, on a une belle filière, on va démarrer plein de réacteurs, on va en construire des milliers dans le monde, sauf que, je sais pas moi, dans 200 ans, 300 ans, qu'est-ce qu'on fera ? De quoi on aura besoin ? Peut-être qu'on saura extraire l'énergie du vide, peut-être que la fusion fonctionnera, sera beaucoup moins cher, peut-être que les énergies renouvelables à 100%, ça pourra marcher parce qu'on sait stocker. Et donc, il y a quand même des inconvénients, il y a de la radioactivité, il y a quand même un peu de déchets, il y a quand même des risques qui sont liés au fait qu'il y a de la radioactivité. Donc on va vouloir s'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut s'arrêter ? Alors, je suppose que lors du retraitement, on a 0,1%, parce que la chimie, c'est jamais du 100%. Donc il y a 0,1% des actinides qui se retrouvent quand même aux déchets. Alors, le retraitement est conçu de manière à ce qu'on n'extrait pas d'actinides. C'est les lanthanides qu'on veut sortir. Et donc, on n'extrait pas d'actinides et on sort les lanthanides qu'on peut. Donc, on arrive à sortir, allez, 70% des lanthanides. Et on en remet 30% dans le cœur, c'est pas grave, ils repasseront au coup d'après. D'accord ? Ils auront droit à une autre option. Et donc, il y a 0,1% des actinides qui partent aux déchets. Le volume du cœur est retraité en 5 ans, en moyenne. Quand on retraite 10 litres par jour, ça fait 5 ans. Au bout de 5 ans, on a retraité tout le volume du cœur. Ça veut dire qu'on a 0,1% des actinides qui sont dans le cœur qui se retrouvent aux déchets au bout de 5 ans. 100% des actinides qui sont dans le cœur vont se retrouver aux déchets au bout de 5000 ans. 0,1%, c'est 1 pour 1000. D'accord ? Donc il faut 5000 ans pour que les déchets concurrencent l'inventaire. Quand vous arrêtez un réacteur, vous dites c'est fini, on arrête, on ne va plus l'utiliser, vous avez cet inventaire, il est équivalent à 5000 ans de déchets. On va faire ça dans quelques centaines d'années. Donc là, on a un vrai problème. D'accord ? Il faut vraiment gérer ça. Alors, on a défini un incinérateur, c'est bien, le MSFR, c'est un réacteur qui peut avoir n'importe quel combustible. Donc en particulier, on prend les inventaires en question, on enlève le thorium, on sait faire ça, et on ne met que le reste. Et puis on le fait fonctionner, il n'est plus du tout régénérateur évidemment, mais c'est le but, et il va commencer à incinérer en fait tous les noyaux lourds, et vous voyez ici ce qui se passe. L'uranium, on n'en a plus que... Enfin, le taux de réduction est d'un facteur 11. Vous voyez qu'il y a un cas particulier, le curium, le taux de réduction est 0,5, c'est-à-dire qu'on a deux fois plus de curium à la fin qu'au début. Mais bon, il y en avait au départ très peu, hein, quand même. Et donc, en 60 ans, on incinère l'équivalent de 9 réacteurs, 9 inventaires. Et si on regarde ce qui se passe sur la radiotoxicité à long terme, alors c'est juste un essai, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on peut faire mieux que ça. On a juste fait une passe en 60 ans dans un réacteur qui n'est pas du tout configuré pour ça. On n'a pas cherché à améliorer les choses. Mais vous voyez qu'on gagne, surtout dans cette zone-là, la radiotoxicité. Donc là, vous avez le temps de stockage. Ces noyaux-là mettent très longtemps avant de décroître. Et vous gagnez un ordre de grandeur dans la zone où on est un petit peu moins sûr du stockage. Le stockage, on en est sûr pendant 10 000 ans, parce qu'on sait que les vers, ils vont tenir ce temps-là. Après, on sait qu'il peut se passer des choses. Et donc, dans cette zone-là, eh ben, on a gagné un ordre de grandeur. On pense qu'on peut faire peut-être 10 fois mieux que ça. Donc voilà. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Au passage, vous pouvez remarquer qu'on peut aussi incinérer des combustibles qui viendraient de RNR sodium, du cycle UPU. C'est pareil, on les met là-dedans, on fait pareil. Et ça se fait en 60 ans, donc c'est relativement rapide. Alors, juste un petit mot rapide, parce que là, je n'y connais pas grand-chose, ça m'intéresse moyennement. J'ai une collègue qui est beaucoup plus intéressée par ça. Qu'est-ce qui se passe dans le monde sur le réacteur à sel fondu? Alors, il y a plusieurs projets. Alors, le projet le plus important, c'est en Chine. Donc, ils ont deux projets. Il y a un projet qui est, que je le donne dans le bon ordre, voilà. Donc, le premier projet, c'est lui, qui est en fait combustible solide caloporté sel fondu. Donc au lieu de refroidir au sodium ou refroidir à l'eau, on refroidit au sel fondu. L'intérêt, c'est d'apprendre à manipuler les sels fondus à haute température. Et puis, ça fait des réacteurs qui sont plus compacts. Et donc, voilà, ils veulent faire un démonstrateur d'un gigawatt vers les années 30 et puis commercialiser vers les années 40, si jamais on commercialise ce genre de réacteur. Et puis, ça, c'est vraiment un réacteur combustible liquide. Dans un premier temps, ici, c'est refaire l'expérience qu'avaient fait les Américains. Premier réacteur que je vous ai montré, pas celui qui allait dans les avions, hein, l'autre. Ils veulent refaire ça, et ça, c'est la technique chinoise. On commence par faire ce que sait faire le maître avant d'essayer de faire mieux. Donc, ils veulent refaire ce qui avait déjà été fait. Et puis ensuite, ils veulent faire, dans les années 30-40, donc là, ils parlent réellement de faire un réacteur de type MSFR. Donc, ce que je vous ai présenté. Ensuite, il y a plein d'autres projets. Donc ça, c'est le projet européen. Actuellement, on a un projet européen qui s'appelle Sanofa, qui est un projet d'étude de sûreté du réacteur. Et pour faire l'étude de sûreté, on est obligé de faire un design. Donc ces designs-là, on les a fait dans ce cadre-là. Terrestrial Energy, c'est des Canadiens qui proposent donc un réacteur. Alors c'est un petit réacteur. Genre, il est sur un camion, on vient le poser sur place, on branche, il produit pendant 30 ans de l'énergie, puis on le récupère et on le ramène. Un truc complètement... voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les small modular reactors, un genre de truc qui est fermé. Alors, oui, il est... honnêtement, je ne sais pas trop la configuration. Je pense qu'il y a du... Oui, il doit être thermique, oui. Donc il doit y avoir du graphène dedans. Il est complètement fermé, enfin bon, voilà. Et puis, un autre concept, Moltext Energy, donc ça, c'est des Royaume-Uni. Alors, eux, c'est un concept qui est très différent. C'est... vous avez des crayons de sel fondu, des crayons qui contiennent du sel fondu. Ils disent que quand ça chauffe, il y a une convection naturelle qui se met à l'intérieur et qui fait qu'il peut être refroidi par les parois. Vous avez un premier sel qui vient refroidir les parois, donc c'est en fait un réacteur à crayon, quoi, combustible, comme un combustible solide, mais sauf que le combustible n'est pas solide, il est liquide. Ils refroidissent ça, après il y a un troisième circuit de sel pour évacuer la chaleur. Voilà. Et donc c'est, bon, apparemment c'est assez sérieux ce qu'ils proposent. Ils veulent construire, alors ces deux-là veulent construire des réacteurs de ce type-là dans les 10 ans qui viennent. Bon, c'est du genre SpaceX, c'est du genre, voilà, c'est des start-up qui veulent construire. Voilà. Et je m'arrête là. Je vous propose aussi une excellente lecture, là. Et je vous remercie de votre attention.
Bien, merci beaucoup. Je suis persuadé que vous avez des tas de questions intelligentes à poser sur le sujet. Et donc, je vous en prie, ne vous gênez pas. Hein. Donc, je pose la première pour que vous ayez l'occasion de poser la seconde. Mais on ne va pas rester là jusqu'à minuit. Rappelez le thorium, la partie ressources, c'est-à-dire le fait qu'est-ce que le thorium représente par rapport à l'uranium, c'est-à-dire sa diffusion et les ressources minières.
Ça fait partie des désinformations qu'on trouve facilement sur Internet. On dit toujours qu'il y a 4 fois plus de thorium sur la planète que d'uranium. Alors ça vient du fait que c'est un calcul purement théorique. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu des supernovas qui ont explosé, qui ont fait un nuage interstellaire, et ce nuage s'est accrété et a fabriqué plusieurs systèmes solaires, dont le nôtre. Et donc, dans ce nuage, il y avait tous les éléments qui sont apparus par nucléosynthèse, dont l'uranium et le thorium. Et déjà, naturellement, comme le thorium est plus léger, il y a plus de thorium produit que d'uranium. Puis le thorium, il a 10 milliards d'années de période, alors que l'uranium, il en a que 4,5, et l'uranium 235, 700 millions d'années. Et donc, ils ont décru, ils ont commencé à disparaître. Ça fait 4 milliards et demi d'années déjà que tout ça s'est produit. Donc, on a deux fois moins d'uranium, et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'uranium 235. Et le thorium, lui, il est quasiment resté. Et donc, globalement, voilà, c'est comme ça qu'on obtient le facteur 3 ou 4. Ben après, la question, c'est pas de savoir combien on en a, c'est combien on peut en avoir. Et là, combien on peut en avoir, c'est beaucoup plus compliqué, parce que l'uranium est soluble dans l'eau. Donc, il s'est solubilisé dans l'eau, il a été transporté par l'eau, l'eau l'a déposé à certains endroits en s'évaporant, et donc on a des mines d'uranium. Il n'y a pas l'équivalent en thorium. On a des zones où il y a des oxydes de thorium, on en trouve, mais pas de concentration comme on peut trouver pour l'uranium. En plus, dans l'eau de mer, vous avez des milliards de tonnes d'uranium, vous n'avez pas de thorium, il n'est pas soluble dans l'eau. Donc, en accessibilité, je dirais, c'est l'uranium qui est le plus facilement accessible. Il y a beaucoup plus d'uranium accessible. Après, quand on fait de la régénération, il faut voir que dans un réacteur actuel, pour fonctionner pendant un an, on a besoin de 200 tonnes d'uranium. Dans un réacteur régénérateur, on a besoin d'une tonne. Une seule tonne, uranium ou thorium. Si vous avez besoin de 200 fois moins de matière pour fonctionner, vous pouvez la payer 200 fois plus cher pour produire une électricité au même prix. D'accord ? Le coût du combustible. Si vous pouvez payer 200 fois plus cher, vous pouvez et tous les moyens possibles et imaginables pour l'extraire. En particulier, l'uranium de l'eau de mer est parfaitement accessible à un prix 10 fois plus cher que ce qu'on paye actuellement. Donc, on dispose de beaucoup plus d'uranium que de thorium, contrairement à ce qui est raconté.
En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle le retour d'investissement énergétique, c'est-à-dire quelle est l'énergie qu'il faut consommer pour extraire le minerai, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut l'extraire facilement, enfin pas facilement, mais disons, il y a beaucoup d'uranium dans la chaîne, la concentration est infime, mais l'énergie qu'elle rapportera
est largement supérieure.
Contrairement pour comparer avec le pétrole, on parle toujours du prix du pétrole, mais si à un moment l'énergie qu'il faut pour pomper le pétrole est égal à celle qu'il est capable de fournir quand on le brûle, c'est plus la peine de pomper, quel que soit le prix du pétrole. Donc, comme la concentration énergétique des matériaux fissiles est d'un ordre de grandeur, même de 3 ordres de grandeur supérieure, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon le retour d'investissement énergétique.
Alors, voilà.
Quelle est l'énergie qu'on dépense pour extraire la ressource par rapport à l'énergie que le produit est capable de
donner. Petit bémol, on peut extraire quelque chose qui a une valeur énergétique, je dirais noble, on peut y consacrer plus d'énergie que ce qu'il va fournir. D'accord ? Si ce plus d'énergie, on l'a sur place, du genre, pourquoi ne pas utiliser du solaire pour extraire du pétrole ? Voilà. En l'occurrence, les Américains, ils injectent du CO2 pour récupérer du pétrole aussi. Ça a aussi un coût énergétique, tout ça. Mais après, c'est C'est pas exactement, même si c'est un peu plus cher énergétiquement, ça peut aussi être intéressant quand même.
D'accord.
Donc les choses sont jamais aussi nettes que ça. Alors au passage, en Chine, 30% de l'énergie contenue dans le charbon qui est extrait est utilisée pour extraire et transporter le charbon.
Vous avez le droit de poser la deuxième question. Hein. Ah.
Là.
Oui, ah, ben voilà, Jean-Claude.
Le micro.
Est-ce que vous avez réfléchi à un échéancier?
Ah, ça c'est...
Entendu?
Est-ce que vous avez réfléchi à un échéancier?
Alors ça, c'est compliqué parce que il y a au moins deux réponses. La première, c'est on fait comme dans les années 50. Dans les années 50, les gens, ils avaient l'idée d'un réacteur, ils le construisaient 3 ans après, vous voyez ce que ça donnait. Bon, donc l'échéancier, dans ce cas-là, c'est dans 5 ans, on a un réacteur. Voilà. On sait bien que ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'il y a les autorités de sûreté qui vont mettre plein de contraintes, parce que ça va coûter cher, parce que les salaires sont beaucoup plus élevés, etc. Donc ça va être beaucoup plus long. Je pense que... globalement, à partir du moment où on décide de construire un réacteur, il va se passer au moins 15 ans avant de l'avoir. C'est l'ordre de grandeur, dont la moitié du temps est consacrée aux autorités de sûreté. Après, c'est quand est-ce qu'on décide de construire? Et ça peut être dans 40 ans. Ça, j'ai aucune idée, c'est complètement politique. Donc, voilà. Donc on n'a pas vraiment d'échéancier. On n'a pas. Et de toute façon, nous, on est quelques-uns, on ne va pas construire un réacteur. Donc nous, on conçoit, on fait un design, on donne de bonnes raisons pour faire les choses de cette manière plutôt qu'une autre. À un moment donné, peut-être des gens vont décider de construire. À ce moment-là, on va leur donner la main. On veut bien servir de conseil, mais c'est les ingénieurs qui feront le boulot, c'est pas nous. Nous, on est physiciens, on n'est pas ingénieurs. Enfin, même si j'ai un diplôme d'ingénieur.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous... Ah, si, il y en a une.
L'uranium doit atteindre 1100 degrés. Comment
la matière fissile, elle est solubilisée dans les sels. Les sels sont des solvants. Donc, dans les critères que j'avais mis au début, il faut pouvoir solubiliser dans le liquide suffisamment de fissile et de fertile. Et donc, ils sont solubilisés dedans. C'est... Les sels sont des solvants. Donc il y a certains éléments qui ne sont pas solubles dedans. Je parlais à un moment de la solubilité du plutonium, qui est limitée. Donc comme le molybdène, il n'est pas soluble du tout à l'intérieur. On produit beaucoup de molybdène comme produit de fission. Donc ça fait des particules. Mais l'uranium, le thorium, le plutonium, tous les actinides sont solubles dans le sel.
Oui, c'est...
Par rapport au surgénérateur de Cressmanville, quelle est la grosse différence au niveau, surtout, de la sécurité? Parce que le surgénérateur, on a fini par l'arrêter.
La différence, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est un combustible solide, Superphénix. Les combustibles solides, ça pose quand même beaucoup de problèmes, c'est compliqué à gérer. En plus, c'est que l'oporté sodium. Le sodium, il y a des problèmes
compliqué.
De réactivité avec l'air et avec l'eau. Il y a des milliers de tonnes de sodium. Alors, moi, en tant que spécialiste, quand je regarde comment fonctionne un réacteur qui a l'oporté sodium, je constate que le sodium n'est pas un problème. D'accord ? C'est gérable, il n'y aura pas de problème, on sait faire. Vous avez dit d'ailleurs que vous avez fait...
Oui, on a fait des échangeurs,
les générateurs de vapeur.
Ici, à Chalon. Voilà. Je rappelle que les générateurs de vapeur...
On sait faire ce genre de choses-là, il
n'y
aura pas de problème pour le faire. Pour le public, ce n'est pas du tout ça. Vous prenez un petit bout de sodium, vous le jetez dans l'eau, vous filmez ça, vous mettez ça sur Internet, et c'est bon, le réacteur, il est mort. Hein? D'ailleurs, ça a déjà été fait, et c'est pour ça, en gros, qu'on a fermé Superphénix. Il y avait cet aspect-là pour le grand public. Pour les antinucléaires, c'était le plutonium, mais bon, ça, c'est une longue histoire des amours entre les antinucléaires et le plutonium que j'ai jamais trop compris, parce qu'ils n'aiment pas les militaires, mais ça n'a rien à voir avec les militaires, en réalité. Donc, voilà. Après, côté sûreté, je vous ai montré que là, on a un réacteur qui est parfaitement sûr. Quand je dis on n'aura jamais évacué les populations autour du réacteur, oui, parce que on peut même, les gens peuvent, les opérateurs peuvent même partir. Si vraiment il y a une catastrophe qui fait qu'ils sont obligés de fuir, ils peuvent partir.
Il n'y a pas besoin de faire une réunion. Il n'y a pas besoin de faire une réunion. Ça, c'est le meilleur pour la sûreté.
Voilà. Dans un réacteur à combustible solide, on a quand même toujours ce problème que le combustible peut fondre. Et en particulier sur le RNR caloporté sodium, pour moi, le vrai risque, il est là, c'est la recriticité. C'est-à-dire que vous avez des crayons de combustible qui sont séparés. Donc, il y a du combustible, il y a du caloporteur. Et à un moment donné, vous pouvez rassembler ce combustible d'une manière ou d'une autre. Un tremblement de terre peut faire vibrer. Le combustible peut fondre et se retrouver rassemblé. Et là, vous devenez très largement surcritique. Et ça, c'est le vrai risque. C'est le vrai risque qui est étudié et sur lequel il y a des solutions. Mais c'est des solutions style rustine. On rajoute des poisons neutroniques qui vont tomber en même temps à l'intérieur. On met en bas quelque chose qui va diluer, etc. Donc on essaie de parer ce risque-là, mais ce risque existe. Voilà. Et donc nous, notre démarche, c'est on ne veut pas de risque. S'il y a un risque, on l'enlève. Pas de risque. S'il n'y a pas de risque, c'est d'une part mieux et d'autre part plus facile à expliquer.
Il y a une quatrième question, des courageux ou des téméraires. On va remercier M. Ehr d'être venu nous faire cet exposé fort savant, hein, le CNRS, hein, bien sûr.
Bah,
hein,
voilà. Je suis désolé.
Non, il ne faut pas être désolé, au contraire. Et oui.
Ah. C'est pas une question.
C'est une réponse. Ah. Voilà. Alors, pour prix de la qualité de la... Ah ouais. Voilà. Le privilège du chef. Donc, je vous offre
du liquide. C'est un combustible liquide.
Du liquide bourguignon. Hein, voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est comme combustible?
Non radioactif. Voilà, j'espère. Hein, voilà.
Et c'est donc, pas sûr, c'est pas sûr. Il y a peut-être du césium dedans.
Ah,
il y a peut-être du césium de Tchernobyl.
Donc merci encore et on applaudit voilà. Monsieur Ehr.
Je vous la montre quand même. Hein.
Donc je vais dire ce que c'est, même. Puisque je ne laisse pas tomber, attention. Ah, oui. Von Romane Aureas.
Ah ben.
Et donc, il faut vraiment faire un bon gueuleton pour arriver à descendre la bouteille, le magnum.